Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Noman Hosni.
Salut.
Salut Noman, comment tu vas?
Ça va bien, pas très bien même, je suis bien, Il fait probablement nuit chez toi en ce moment, non? Pas encore?
Ouais. Vous savez, si, il fait nuit, ouais.
Mmh. Voilà. Moi,
et donc, toi, t'es à Los Angeles, beau, ouais. Le soleil, ouais, ça va, il fait chaud en ce moment?
Non, hier, on a eu une. J'ai dû avoir. Ça fait un an que je suis là, j'ai dû avoir deux fois la pluie. Et hier, c'était une journée très pluvieuse.
D'accord.
Toute la journée. Mais j'ai couru, ouais. J'ai profité, j'ai pris la pluie, j'ai pris vraiment une rincée. Et j'ai couru sous la pluie, ça m'a fait du bien.
C'est vrai que Los Angeles, c'est un peu l'image de la ville toujours ensoleillée, tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de neige là-bas, jamais, non?
Pas loin, il y a la neige. On a un endroit qui s'appelle Big Bear, mais je sais pas, tu dois conduire une heure et demie, et puis tu arrives, il fait beau, quoi.
D'accord, ok. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bah, je te remercie.
Avec grand plaisir. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter?
J'en ai eu tellement de trucs. Il y a eu des fois où j'ai failli me battre. Je peux te raconter un truc où... Alors, il faut situer un petit peu. J'étais aux alentours de... T'as le Paname qui est vers République.
Oui.
Ok. Et là, je pense que j'avais fait une scène, probablement à Bonne Nouvelle. Je ne sais plus si c'était au Comedy Club ou au gymnase.
Ouais.
Et je sors, je pensais que j'avais fini ma soirée. Et puis, et là, mec, on commence à se murger la gueule, à fumer des pètes. Je suis dans un état second. Je me défonce la gueule.
Ouais, ouais.
Et là, à l'époque, le Paname, celui qui gérait le Paname, c'était Nadji. Il gérait les humoristes sur les plateaux. Et à un moment, j'ai un appel, je vois Nadji, je réponds, je suis bourré. Il me fait, mais t'es où? Et je lui dis, je joue là. Et puis, il me fait, ouais, tu joues là. Et je dis, écoute, je suis à Bonne Nouvelle, à pied, Bonne Nouvelle, je suis entre Bonne Nouvelle et Strasbourg-Saint-Denis jusqu'à le Paname. Je me dis, j'en ai pour 15-20 minutes, je suis là dans 20 minutes.
Mm-hmm.
Ok, vas-y, c'est bon. Et en fait, au moment où je commence à marcher pour aller jusqu'au Paname, je vois que... Je me dis, mais attends, mais je ne vais pas jouer, je suis complètement déglingué, je suis bourré de ouf. Je fais, tant pis, vas-y, je vais jouer quand même, mais je suis pas bourré, je suis déglingué. Tu vois, il faut comprendre que je suis dans un autre monde.
Okay.
J'arrive, c'est à moi de jouer. J'en ai fait plein, hein, des phases comme ça, hein, des phases où je monte dans des états seconds sur scène énormément. Uh-huh. J'arrive sur scène et long silence avant de commencer. J'essaie de reprendre mes idées, mais vraiment, je sais pas si tu te rends compte, mais peut-être 30 secondes de silence sur scène, c'est long, tu vois.
Ah ouais, c'est l'équivalent de 3 ans dans la vie.
Bon, peut-être. Et du coup, j'essaie de me rappeler des vannes à moi, tu vois, et je me dis, ah, ça c'est une one-liner qui marche super bien. Et j'avais une vanne assez courte après et qui cartonne, tu vois. Donc je me dis, ah, vas-y, je vais faire celle-là. Ça cartonne. Au bout de 30 secondes, je dis juste une vanne, carton. Ouais. Et du coup, là, je rigole avec les gens et je fais, ah, je prends mon temps, mais j'envoie du lourd, tu vois. Et je continue. Et en fait, je sais pas, le passage, ça se passe super bien.
Uh-huh.
Donc le lendemain, moi, ce que je me dis, je vais me remettre dans le même état. Parce que peut-être que je tiens quelque chose là, tu vois.
Ouais, tu espérais que la foudre frappe deux fois au même endroit, quoi.
Ouais, je sais pas. J'arrive, pareil, je me remets la race, je refume des pètes, je me mets à l'envers. Et là, j'arrive sur scène. D'ailleurs, entre parenthèses, bourré, ouais, j'ai déjà fait des trucs, vraiment des dingueries. Mais bon, je remonte sur scène.
Mm-hmm.
Et là, j'attends. Et ça se voit que je suis bourré, tu vois.
Ouais,
et
ouais.
Là, il y a une meuf. Je sais pas si tu vois le Paname, les gens, ils sont tout autour de toi.
C'est à 180 degrés, ouais.
Ouais. Et elle me dit, c'est navrant. C'est navrant ce qui est en train de se passer sur scène.
Aïe.
Et là, je me retourne vers elle et je la déboîte. Je la déboîte. C'est-à-dire qu'en gros, je me dis, tu es au courant qu'il y a un travail de scène derrière tout ça. Donc si je suis bourré, c'est que peut-être je joue. Et la meuf, elle est là et je continue. Et je lui dis, c'est con parce que quand tu es arrivé, tu vois, tu es jolie, tu es une jolie femme. Mais petit conseil, c'est quand tu fermes ta gueule, en plus, tu as l'air intelligente. Et je continue et je lance. Et là, son mec, il était à côté, il se vénère.
Ah.
Son mec, il se vénère. Et puis là, je commence à dire, mais je jure, tu sais, c'est rare que je jure sur la vie de ma mère. Mais là, par exemple, je peux jurer sur la vie de ma mère. T'as jamais été premier de ta classe, par exemple. Là, il y a des mecs qui se vénèrent. Je pense qu'il avait des potes. Il y a un mec qui fait, vas-y, casse-toi là de la scène. Du coup, moi, je rigole et je fais, mais t'es tout seul, là t'es, Et là, mec, il y a 5 mecs qui se lèvent.
Ah oui.
Et il commence à dire, vas-y, bouge de la scène, bouge de la scène.
Oh là là.
Ouais, et moi, je suis bourré et j'adore la bagarre.
oui, c'est ouais, t'es connu pour être quelqu'un ouais, qui aime les sports, genre le MMA et tout. Et franchement,
ouais, je me dis en fait, je me dis pas que je me batte, mais je me dis ça m'inquiète absolument pas en fait dans ma tête. Et en plus, quand je suis sur scène, t'as cette sensation d'un peu d'invincibilité des
oui,
fois.
T'as une sensation un peu de dominer la soirée, voilà. Ouais. Mais la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que cette insouciance, tu penses qu'elle était due à l'alcool ou est-ce que même à jeun, t'aurais eu la même insouciance ?
Non, quand je suis sur scène, c'est ma scène, quoi.
Ouais, t'es à la maison,
tu
quoi.
C'est ton foyer, en fait. C'est chez c'est toi, ça. Quoi. Là. C'est ça. Pour ça que j'aime mais pas quand il y a des potos qui me disent « Tu peux plus faire cette vanne » ou « Tu peux plus faire cette vanne ».
Ah, mais, ouais, c'est dommage.
Est-ce que les gens rient ? Oui.
Oui, je peux faire cette oui. vanne. Normalement, oui, voilà. Et d'ailleurs, quand t'as vanné les deux, parce que quand même, tu les as pas ratés, hein. quand t'as vanné le couple, là, je veux dire, est-ce que ça a refroidi l'ambiance dans la salle ou pas ?
Ah, ça refroidit de ouf, parce que ça sentait la tension, les gens, tu vois, ça se voyait. Et puis Nadji, il en a rajouté une couche. Nadji, il arrive, il attrape le mec par le col.
Ah oui, carrément, d'accord.
Oh, il y va vénère, en fait. En plus, c'était l'époque où Nadji faisait de la muscu. Tu sais, il était un peu plus balèze que d'habitude.
D'accord.
Et il arrive, il lui prend le col comme ça, il va pour le sortir. Et moi, je fais « Non, vas-y, gère, c'est bon, je vais gérer. » Et là, Nadji me regarde, il fait « Non. » Et il le sort, mon gars. Et là, je regarde le mec et je fais « T'es devenu tout rouge. » Tu sais, je commence un peu à me foutre de sa gueule. Mais j'ai continué, mais résultat des courses, il l'a sorti. Hein. Et à la fin, quand on est arrivé pour faire les saluts, mais déjà, j'ai quitté la scène parce que ses potes, ils devenaient un peu relous. J'ai continué à vanner ses potes, etc. Ça rigolait. Puis après, j'en avais marre. C'est les gens qui rendent le spectacle impossible. Après, parfois, le public, il vient. J'ai déjà vu Jamel. À l'époque, en 97-98, j'en ai reparlé quand je l'ai rencontré.
Ouais.
Pareil, les mecs, ils faisaient les cons. Ça s'est battu dans la salle et tout. Et pour lui, quand je lui en ai parlé, il m'a dit que c'était un de mes plus mauvais souvenirs de scène, si tu veux. Mais le public l'a rappelé. Tu vois, lui, il a arrêté. Et puis, t'as toute la scène qu'on avait payée quand même, tu vois.
Ouais,
Et il est revenu et c'est un des trucs qui m'avait le plus impressionné, c'est qu'il a réussi à refaire rire les gens alors qu'il y avait une ambiance trop chelou. Et bon, moi à la fin, le truc qui était marrant, c'est que j'ai fait monter ce mec-là sur scène, la Kaira, le mec qui faisait le
ah ouais,
Kaira, ouais. Et je lui ai fait me faire un bisou.
T'as la meilleure façon de gérer les conflits.
J'ai dit, fais-moi un bisou maintenant.
Et il l'a fait du coup.
Ouais, il l'a fait.
Oh là 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 là. Mais franchement, il n'y a qu'à toi qui peut arriver ça, en fait.
J'ai un autre cas, j'ai joué dans une chicha. Et pareil, il y a un mec, tu sais, il fumait sa chicha, mais tu sais, il me regardait vénère. Et je commence à lui parler, etc. Et puis, il fait, vas-y, fais ton sketch. Il commence à me faire ça. Et je fais, je suis là, mais tu fais partie du sketch maintenant, tu vois. Et là, il me fait, ma parole, je fais ton sketch, je vais te défoncer. Et là, dans la chicha, il y avait un vigile. C'est pareil qui vient. Et là, je dis au mec, non, c'est bon. Et là, je le regarde et je dis au vigile, non, mais on va dire les choses clairement. Je dis, si moi, j'étais fabricant de jouets, je ferais un jouet avec ta tête, t'es mignon. Enfin, tu m'impressionnes pas du tout, mon gars. Et je commence, il avait ses deux meufs, il y avait deux meufs avec lui. Donc, je pense qu'il voulait faire le caïd avec ses meufs. Ouais. Mais ouais, en vrai, quand t'as un mec comme ça, si t'arrives et que t'es vénère contre l'humoriste, ça, je dis ça au public, c'est-à-dire que les mecs, souvent, ils font de l'humour depuis 10 ans et on a rencontré beaucoup de situations cheloues.
Ouais.
Et on peut désamorcer sans violence, mais le mec tout de suite qui veut montrer les points, la violence. Après, je reconnais que peut-être le fait que j'ai pas peur que ça parte en bagarre. En général, ça part pas en bagarre parce que j'ai vraiment pas vraiment peur. J'ai pas envie, mais il y a des mecs qui peuvent arriver, c'est déjà arrivé, qui viennent et qui veulent se battre pour de vrai sur scène.
Ouais.
Ça m'est déjà arrivé quelques fois. C'est bizarre quand même. Tu vois, tu viens pour faire rire les gens et des mecs, ils arrivent, ils sont vénères, ils amènent toute leur énergie négative. Tu les énerves, ils veulent monter sur scène pour taper, quoi.
Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont aucun second degré, tu vois. Ils ne comprennent pas la différence entre l'humour et la vie réelle, quoi.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ouais, moi je dis souvent, j'arrivais, au bout d'un moment, j'en avais marre qu'il y avait ce genre de situation. Et je disais, écoutez, c'est de l'humour, faut pas prendre. S'il y a des insultes, c'est faut pas le prendre personnellement. Surtout, ça dépend quel type d'humour tu vas faire aussi, ça joue. Hein. C'est parfois il y a des sujets malheureusement, je sais pas, les gens ils ont pas de recul quand dès que ça parle de religion ou de trucs comme ça, quoi.
Ouais, bah il y a des sujets plus tendus que d'autres, mais de toute façon, moi j'estime que quand un mec est sur scène, tu as le droit de ne pas rire, mais tu as pas le droit de l'agresser physiquement, et même tu as pas le droit de dire au mec non, ferme ta gueule, sors de scène, machin. Non, t'es sur scène, fais ton truc. Si je veux rire, je rirai. Si je veux pas rire, je ris pas. Je suis pas obligé d'adhérer à ton propos, mais je suis obligé de respecter le fait que tu montes sur scène et que tu parles, quoi.
Ouais,
mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui veulent, qui s'énervent et tout, qui prennent tout au premier degré, qui prennent tout pour eux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le mec, il est entouré de deux meufs, donc forcément, il voulait montrer, il voulait un peu montrer les dents, quoi, tu vois, un peu en mode, vous avez vu, je vais le calmer et tout machin. Et quand il a vu que tu, quand il a vu que tu l'avais vanné, vraiment, tu l'as ridiculisé en fait. Je pense que c'est ça qui lui mettait encore plus la rage. Mais c'est pas grave, hein. Franchement, c'est comme ça. Malheureusement, hein. Les publics sont constitués de personnes vraiment diverses et variées, et il y en a dans le tas qui supportent pas la moindre critique. Et je pense que le fait que toi, tu n'aies pas peur et qu'on le sente dans tes yeux, que ça te fait pas peur, que ça parte en vrille, je pense que ça aide à calmer les situations, tu vois.
Par contre, tu vois, ça c'est un truc que j'ai pas encore en anglais, parce que en vrai, ce qu'on sait pas, c'est que c'est pas que la vanne que tu fais qui va détendre l'atmosphère. Ouais. Toute ton intonation, tes gestes, le paralangage, etc., ouais, c'est très important.
Ah, mais le non-verbal, c'est super important dans l'humour, hein. C'est ton attitude, ta détente.
Ouais, mais en anglais, là, tu vois, je commence à décrypter des trucs que j'ai pas encore. Mais je les décrypte gentiment, tu vois. Ça fait un an que je suis là, j'ai de la chance de faire de la scène déjà. Ce qui est quand même cool à notre niveau, là, tu vois.
Ouais, en ce moment, c'est un luxe,
la pandémie, ouais. Etc., tu vois, je suis aux États-Unis, c'est complexe. Mm-hmm. Mais ouais, je commence à décrypter ça, je me laisse aller à faire des impros maintenant, etc.
Ah, bah c'est cool. Mais de toute façon, je pense que c'est comme en français, tu vois, quand tu montes au tout début. T'es tellement sur ton texte, t'es stressé et tout, et puis après avec le temps tu te détends, tu trouves des nouvelles façons d'interagir avec les gens. Tout l'apprentissage que t'as fait en français, tu vas le faire en anglais, et puis après tu vas être paré pour faire des scènes autant anglophones que francophones, et voilà, c'est tout. On apprend à gérer, c'est avec le temps, hein. De toute façon, ça vient, tu vois. Moi j'ai fait une seule scène en anglais, d'ailleurs c'était marrant, c'était avec ton frère.
Ouais, c'était où?
Ouais, c'était avec Khaldoun, c'était au So Gymnase à l'époque. C'était le New York Comedy Night. Et du coup, alors c'était la scène de Seb Marks, mais c'était quelqu'un qui le remplaçait. En fait, lui, il avait déjà un plateau quelque part. Mais donc, j'ai joué la seule fois de ma vie que j'ai joué en anglais, c'était juste après Monsieur Khaldoun Hosni. Et c'était un très, très bon souvenir. D'ailleurs, je remercie encore Khaldoun, j'en profite pour le saluer. Il m'avait aidé et tout un petit peu. Tu sais, il avait regardé, il m'avait dit ça, peut-être dis-le comme ça et tout machin. Il m'avait fait un petit retour vite fait sur le texte que j'avais préparé. Et ça m'a détendu, quoi. Et donc, après, j'y suis allé. Et clairement, tu vois, j'ai essayé. J'ai pas trop improvisé. Le seul truc que j'ai eu, en fait, parce qu'à l'époque, je faisais un sketch, je faisais une liste d'amis, tu sais, genre, je faisais la liste des amis qu'on a tous dans nos vies et tout. Et bizarrement, au moment où je balance, tu sais, genre, je dis, ouais, l'ami qui est toujours en retard, à ce moment-là, t'as un couple de Renoir qui rentre, tu vois. Et du coup, le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est la seule improvisation que je me suis permise dans le sketch, quoi, c'est que je leur ai dit, je vous jure, je parlais pas de vous. C'est le seul truc que j'ai fait, tu vois. Mais c'était tellement cliché au moment où je dis ça, de Renoir qui rentre, c'était génial, quoi. Non, mais tu vois, c'est des automatismes. Les automatismes qu'on a en français, je pense que pour les passer en anglais, tu vois, faudrait qu'on en discute avec Yacine. Tu as dû lui en parler aussi, vu que toi, maintenant, tu vis là-bas.
Oui, avec Yacine.
Voilà, je veux dire, Yacine qui a joué en anglais, qui a joué carrément son spectacle, qui a fait le Fringe et tout.
Qui a fait les premières parties des Dizzard.
Et, allez, voilà, c'est vraiment, je veux dire, les premières parties d'un monstre sacré de l'humour anglais et tout. Je veux dire, vraiment, est-ce qu'il a réussi dès le départ, tu vois, genre à adapter tous ses skills en français, à les adapter en anglais, ou est-ce que ça lui a pris du temps et tout? C'est, ouais, faudrait
que... Je pense que tu deviens, au début, quand tu apprends une langue comme ça, tu es juste une autre personne, parce que qu'est-ce qui fait que tu es toi? Et comment les gens te perçoivent, surtout, c'est le vocabulaire que tu emploies, ton flow, etc. Ça se trouve, dans la vie, tu vas parler un peu plus vulgaire, un peu plus slang. Mais quand tu apprends une langue, bah, ce n'est pas les premiers mots que tu apprends. Donc, tu vas parler de manière un peu plus littéraire. Et du coup, les gens vont te percevoir d'une autre manière.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, en fait, il faut être beaucoup plus expérimenté dans la langue pour pouvoir vraiment ressembler.
Je lis tous les jours.
Oui. Ben oui, ouais, toi, voilà, toi maintenant tu vis là-bas, je pense que ça va pas tarder à venir, quoi.
Et puis je fais du stand-up, donc c'est de la communication orale.
Non, mais c'est ça, mais.
Communication tout simple. Enfin, la langue, le langage est ton outil, si tu veux. Donc tu dois vraiment le mettre. Tu dois être capable de pouvoir écrire un livre dans une langue quand tu fais du stand-up en vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que maintenant, avec le temps que tu, depuis le temps que tu joues dans les deux langues et tout, je pense que ton personnage comique, ton clown anglophone, commence de plus en plus à ressembler à ton clown francophone.
Ouais, mais il vient que depuis que je suis aux États-Unis, c'est-à-dire que je ne l'avais pas vraiment encore en France.
D'accord. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ça te pousse dans tes retranchements de vivre dans un pays où ce n'est pas ta langue maternelle. Donc, tu apprends beaucoup plus vite, en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que pour apprendre une langue, le mieux, c'est d'habiter dans le pays.
C'est quotidien. Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais, l'apprentissage. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a les expressions aussi. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Par exemple, toi, en français, tu dirais la partie cachée de l'iceberg. Peut-être qu'ici, ils vont dire autre chose, ils vont avoir une autre métaphore.
Oui, mais bien sûr, mais de toute façon, tu vas l'apprendre ça à force de voir des stand-uppers sur scène, à force de regarder la télé, tu vas apprendre aussi les expressions locales. Peut-être aussi avec les gens avec qui tu vas discuter, ils vont te sortir une expression, tu vas dire « excuse me, what ?» Tu vois, et là, ils vont t'expliquer. Donc voilà, c'est en vivant là-bas, là, ça fait qu'un an. Je pense que d'ici peut-être, je sais pas, 2 ans ou 3 ans, tu seras full bilingue, full américain au final, tu vois.
Ouais.
Parce que bilingue, tu l'es déjà.
Bah en fait, c'est là le truc, c'est que plus je connais l'anglais, plus je dis pas encore que je suis bilingue, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup en France, et beaucoup de bilingues en France.
Ouais.
Mais en vrai, c'est pas ça, bilingue. Ils parlent l'anglais un petit peu, puis ce que j'appelle ce qu'on pourrait appeler l'anglais de voyage. C'est une langue qui est parlée dans le monde, donc on a l'anglais de voyage qui nous permet d'avoir un peu ce qu'on veut dans le monde et de s'en sortir. S'en sortir et parler une langue, c'est vraiment deux choses différentes.
D'accord. Peut-être que tu veux parler du terme, enfin, je crois qu'ils disent fluent en anglais.
Fluent. Ouais. Je peux dire que je suis fluent, mais pas bilingue.
D'accord, ok. Ben ouais, on fait le distinguo entre les deux. Ben merci beaucoup, Noman, en tout cas, pour ces anecdotes et pour cette réflexion. Ça fait plaisir. Ça fait quelques épisodes là qu'on va un peu plus profondément dans le podcast. Et ça fait plaisir de réfléchir un petit peu de temps en temps sur le monde du stand-up. Et là, pour la première fois, sur le monde du stand-up dans une autre langue. Donc vraiment, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Bah, j'ai toujours l'Instagram, donc Nomanosni. Et après, pour YouTube. Il va y avoir quelques chaînes différentes pour l'instant. La chaîne principale, c'est Nomanosni Records, puisque ma première a été effacée. J'avais plus de 200 000 abonnés, des vidéos à plus d'un million. Ça sautait la chaîne parce que je fumais du cannabis.
Et ouais.
Mais d'ici aux États-Unis, ils ne font pas sauter les chaînes quand tu fumes.
D'accord. Oui, là, tu as retrouvé une liberté, quoi.
Ouais, parce que c'est associé c'est par rapport où est ton compte en banque relié à ta chaîne YouTube.
D'accord. Ok, ah ben oui, forcément, oui, c'est des trucs, des censures dont on n'a pas toutes françaises. Les clés, malheureusement. Ouais, censure française, ah oui, clairement.
Tous ceux qui clairement, sont contre le cannabis aujourd'hui, ils ne sont pas du bon côté de l'histoire, comme elle va arriver, mais voilà.
Écoute, on verra bien ce que ça donne. Et donc, de toute façon, les prochaines chaînes que tu vas ouvrir, ce sera annoncé sur ta chaîne Nomanosni Records.
Ouais, je ferai des posts, maintenant on peut faire des posts aussi sur YouTube, et puis j'en parlerai surtout sur Instagram. Pour l'instant, Instagram, c'est vraiment le réseau où je vais le plus, on va dire.
Ok, pas de problème. Tu as peut-être Facebook, une page Facebook et un Twitter?
Oui, j'ai page Facebook, Instagram, Twitter.
Ok, parfait. Bah, je mettrai tous les
TikTok,
liens du coup.
J'ai tout, tous ces trucs-là. Snapchat.
la totale. T'as toujours ton site noman.ch?
Exact, exact.
Ok, bah
Toujours bonne
je le
recherche.
mettrai aussi. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bisous à tous, même à toi là-bas.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.